Pour ce soir, et on va faire ça assez rapidement, avec deux thèmes principalement, à savoir la prière, la bataille de la prière, et certains aspects de la prière qu'on va voir par rapport à Daniel et à ce qui se passe avec cet ange et cette vision. Et ensuite, on va dire deux mots sur la réalité spirituelle des choses, sur le fait qu'il y a une réalité spirituelle qu'on ne voit pas nous clairement avec nos yeux tout le temps, et qui est derrière ce qui se passe dans le monde, mais aussi dans ce qui se passe dans nos vies. Et donc on était verset 10 où Daniel est tout tremblant par terre et une main le touche. Et il se met à quatre pattes. Verset 11. Puis l'homme m'a dit: Daniel, homme considéré comme précieux, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout là où tu es. En effet, j'ai été maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'a dit cela, je me suis tenu debout, tout tremblant. Il m'a dit: Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause d'elles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide, et je suis resté là, près des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans l'avenir, car la vision concerne encore cette époque-là. Pendant qu'il m'adressait ces paroles, je regardais par terre et restais silencieux. Quelqu'un qui avait une apparence humaine a touché mes lèvres. J'ai ouvert la bouche et je me suis mis à parler. J'ai dit à celui qui se tenait en face de moi: « Mon Seigneur, j'ai été bouleversé de douleur par cette apparition et j'ai perdu toute force. Comment pourrais-je, moi, ton serviteur, te parler à toi, mon Seigneur? Désormais, je n'ai plus de force et il ne me reste plus de souffle. » Alors celui qui avait apparence humaine m'a de nouveau touché et m'a fortifié. Il m'a dit: « N'aie pas peur, homme considéré comme précieux, que la paix soit avec toi. Fortifie-toi, fortifie-toi. » Pendant qu'il me parlait, j'ai repris des forces. J'ai alors dit: que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il m'a dit: sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je retourne combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, le chef de la Grèce viendra. Cependant, je veux t'annoncer ce qui est écrit dans le livre de vérité. Personne ne me soutient contre cela, excepté Michel, votre chef. Donc ici, on voit que cette vision et cet ange qui vient, on voit verset 12 que c'est à cause des prières. Il lui dit: dès le jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause d'elles que je suis venu. Il y a plusieurs remarques qu'on peut faire par rapport à la prière et par rapport à ce que l'ange lui dit. Ici, ces paroles sont entendues tout de suite. La réponse vient 3 semaines plus tard. Mais il lui dit: dès que tu as eu à cœur de t'humilier, de comprendre, tes paroles ont été entendues. Il lui dit: c'est à cause d'elles que je suis venu. Ça, c'est quelque chose qui peut nous encourager aussi par rapport à nos prières et par rapport à l'attente, par rapport aux réponses. C'est que Dieu entend nos prières dès le début, même si des fois on a l'impression qu'il tarde dans sa réponse. Il nous entend, mais les temps d'attente dans sa réponse sont dus à d'autres choses. C'est pas parce qu'il n'entend pas ou parce qu'il n'a pas à cœur d'agir. C'est souvent pour nous faire grandir et pour nous changer qu'il va, pour une raison ou pour une autre, attendre que les réponses nous parviennent. Et si on voit de manière très directe, et c'est quelque chose qui est présent dans toute la Bible aussi, mais qui est un thème sous-jacent qu'on voit pas toujours, mais c'est l'importance de la prière par rapport à tout l'aspect, la réalité du monde spirituel, qu'il y a une bataille qui est en train de se dérouler, et qu'il y a des forces et des réalités, des puissances qui ne sont pas celles qu'on voit, qui sont à l'œuvre, et que la bataille qui est vraiment importante, la bataille qui par rapport à nos vies, par rapport au monde dans son sens plus large, et par rapport au déroulement des événements dans l'histoire de l'homme. Ce sont des choses qui sont dirigées, qui sont affectées et influencées par ces réalités spirituelles. Et c'est Paul peut-être qui nous le dit le plus clairement dans Éphésiens 6, qui est un passage qu'on connaît en général bien. Dans Éphésiens 6, 10. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. On va s'arrêter là. Et donc il nous dit, verset 12, « En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Et ici, dans ce récit avec Daniel, on a une description des événements historiques et de la réalité, on va dire, géopolitique du monde de Daniel par une vision et une description des puissances spirituelles qui sont en jeu. Alors pas toutes, mais ça nous donne un petit peu une compréhension plus en détail de cette réalité. Et qu'est-ce qu'on a? Oui. Alors, quand l'ange lui dit... Verset 13, « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là près des rois de Perse. » Ici, le chef du royaume de Perse, c'est une puissance... c'est pas une bataille qui a eu lieu contre Cyrus, mais c'est une bataille qui a eu lieu entre des anges et contre l'autorité, on va dire la puissance. Il y a l'archange Michel, mais moi je parlais de la puissance démoniaque, on va dire, qui contrôle le royaume de Perse.
Qui est à l'œuvre aujourd'hui.
Oui, alors enfin après il y a qui Satan.
Mais il y a peut-être des personnes qui sont au-dessus de la France, qui sont au-dessus de.
Mmh. Alors. Spirituellement, alors le. Disons qu'il y a, la Bible nous apprend qu'il y a une partie des anges qui ont suivi Satan dans sa rébellion contre Dieu. Et Satan a une armée, une hiérarchie et des gens qui travaillent pour lui, des esprits démoniaques. C'est difficile de trouver les mots, c'est pas des choses qu'on a tous les jours. C'est ce que Paul essaie de nous décrire, ces autorités, ces puissances des ténèbres qui sont là. Et donc on voit qu'il y a a priori quelqu'un qui est en charge du royaume de Perse. Et il y a une bataille qui a lieu entre cet ange qui parle à Daniel et Michel aussi, qui est l'archange Michel, qui revient dans d'autres passage dans Daniel 12:1, on nous parle de Michel le grand chef, celui qui veille sur les enfants de ton peuple, qui est a priori l'ange qui est à la tête de la nation d'Israël, qui protège, qui est en charge de la nation d'Israël. Il est question de lui aussi dans Jude 1, verset 9. Dans Apocalypse 12:7, on nous parle de ce même archange Michel. Et donc il y a cette bataille qui a lieu, et c'est quelque chose qui est intéressant. Alors on dit, mais pourquoi est-ce que comment ça se fait que qu'un ange envoyé par Dieu puisse être retenu comme ça pendant 21 jours. Et c'est une des choses qu'on a du mal, nous, parfois à comprendre. Mais il y a une bataille spirituelle qui est réelle. On en connaît l'issue, à savoir que Dieu va gagner. Mais en attendant, Dieu a accordé, laisse l'autorité à Satan sur la terre. Et laisse ses puissances, d'une certaine manière, presque comme un outil dont il se sert dans certains moments. Et on le voit aussi dans le livre de Job, où Dieu accorde en quelque sorte à Satan et à ses puissances un certain rôle qui permet à Dieu de faire grandir en quelque sorte, ou de toucher, de mettre à l'épreuve les gens qui veulent le suivre, les croyants aujourd'hui. Et c'est quelque chose qu'on a peut-être un petit peu de mal à comprendre, mais c'est la volonté de Dieu pour le moment de laisser cet état des choses. On sait que Dieu est supérieur à ses puissances. On n'est pas dans un monde manichéiste. Alors c'est un mot philosophique pour parler d'un monde où on aurait une bataille entre le bien et le mal, mais qui resterait comme un statu quo où les deux forces sont égales et restent tout le temps, et qu'il n'y a pas de victoire finale. Ici, Dieu est plus fort. On sait que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. On sait Paul nous dit que dans 1 Corinthiens qu'il ne nous laisse pas être tentés ou en quelque sorte attaqués au-delà de ce que nous pouvons supporter. Il a aussi un contrôle, mais il laisse ses puissances et il laisse Satan agir dans une certaine mesure, et c'est un des mystères qu'on ne comprend pas forcément, mais c'est une réalité qui transparaît dans beaucoup de livres. Mais c'est quelque chose qui est des fois difficile à cerner, parce que c'est par petites bribes qu'on a des informations tout au long de la Bible, dans les descriptions qu'on a dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, de Paul, de Matthieu, dans Apocalypse, dans les prophéties d'Ésaïe, des différents prophètes, où on a à chaque fois des petits bouts qui nous permettent d'avoir une vision plus complète de cette réalité avec les anges, et aussi ce côté avec Satan et ses puissances et la bataille qui a lieu derrière. Et ici, Daniel, c'est un des rares moments avec Apocalypse où on a des choses qui sont décrites de manière assez détaillée sur la bataille qui a lieu entre ces puissances. Et on a ici aussi, verset 20, « Maintenant je retourne combattre le chef de la Perse. » C'est-à-dire qu'il y a encore cet esprit qui dirige la Perse, qui est présente, même après cette bataille. « Et quand je partirai, le chef de la Grèce viendra. » Et donc il y a aussi une notion d'une autre puissance spirituelle qui est en charge de la Grèce, qu'il va venir. Et ces forces sont opposées au peuple de Dieu, sont opposées à la volonté de Dieu. Et il y a ce combat qui a lieu où Dieu envoie ses anges pour combattre. Et c'est intéressant parce que quand on voit ça, on se dit « Bon, ben Dieu, il gère ces choses-là. » Et elles sont assez distantes et assez indépendantes de ce que je fais moi. Mais quand on lit le texte, on voit que cet ange qui est venu combattre le chef de la Perse est venu parce que Daniel a prié. Et c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, mais Dieu, dans sa volonté, dans sa souveraineté, veut qu'on participe à cette bataille. Et c'est par la prière qu'il nous demande par la prière et par les autres choses qu'on a vues dans Éphésiens, dans ce que Paul demande aux croyants d'utiliser dans cette bataille spirituelle, qu'on doit participer. Et c'est intéressant parce que certains commentateurs disaient « Bon, ben, cet esprit de la Perse, on a vu dans Esdras qu'il y a une opposition à ce que le peuple revienne à Jérusalem, qu'il y a une opposition à ce que le temple soit reconstruit, qu'il y a une opposition à ce que le Jérusalem soit reconstruit. Et cette opposition à ces choses-là, par extension, par la suite, parce qu'on voit de ce que Dieu va amener Jésus par le peuple d'Israël dans sa nation, c'est en quelque sorte une opposition aussi au plan général du salut des hommes, qui est lié, qui est tissé dans ces choses. Et
ça veut dire encore aujourd'hui, hein, dans le
point. Ah oui, c'est vraiment quelque chose où il y a ce fil conducteur du plan de Dieu dans l'histoire. Il nous a déjà annoncé, mais en même temps, on a notre rôle à jouer, on a notre responsabilité, et de voir que Daniel, on lui dit, c'est parce que tu as prié que j'ai été. Je suis venu combattre cette autorité qui est au-dessus du royaume de Perse. Et certains commentateurs disent, c'est un petit peu peut-être les autorités, cette autorité perse. Il y a ce combat pour qu'ils peuvent reconstruire Jérusalem. Spirituellement, le royaume de Perse, Satan voulait empêcher ça, voulait empêcher le peuple, était contre ça. Et c'est par ses prières, par Daniel et par d'autres qui ont prié, qui ont demandé à Dieu, et par les anges qui sont venus combattre, que Dieu a permis que Jérusalem soit reconstruit et qu'il y ait eu cet accomplissement. Et c'est toujours des choses qui sont, moi j'ai du mal à les saisir.
Quel est le rôle de l'homme dans cette bataille? Nous recrutons dans un sens.
Ça, et aussi le lien qu'il y a, on est un petit peu. Mais là, ici, par exemple, dans ce qu'on a vu, il y a vraiment quelque chose où on voit, il y a des choses qui s'opposent à ce qu'il retourne à Jérusalem. Il faut 4 édits de 4, enfin, c'est 3 rois, 2-3 rois, pour que le peuple retourne enfin. Il y avait une opposition à ce qu'il revienne. Et de voir, parce qu'on a l'impression quand même qu'il y a une victoire, qu'il y a quelque chose qui a été obtenu et qui a été obtenu par Daniel en quelque sorte, par sa persévérance dans la prière pendant 3 semaines, cette période de deuil où il a imploré Dieu. Et on se dit, mais s'il avait arrêté à 20 jours, est-ce qu'il serait venu jusqu'à lui? Est-ce qu'il lui aurait délivré cette vision? Alors on ne sait pas, mais on voit que Daniel a son rôle à jouer, et nous aussi on a notre rôle à jouer pour voir un petit peu cette réalité spirituelle. On peut se tourner aussi dans 2 rois 6. Il y a un passage qui est très intéressant. Donc 2 rois 6, verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera à tel endroit ». Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Attention, ne passe pas à cet endroit, car c'est là que les Syriens descendent. » Le roi d'Israël envoya des hommes se tenir en observation à l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela ne se produisit pas seulement une fois ou deux, si bien que le roi de Syrie en eut le cœur troublé. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Allez-vous enfin me dire lequel de nous est partisan du roi d'Israël ? » L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, mon seigneur le roi, c'est Élisée le prophète qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Le roi dit, « Allez repérer où il est et je le ferai capturer. » On vint lui dire, « Il est à Dothan. » Le roi de Syrie envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville et il vit qu'une troupe la cernait avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria, « L'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Et on regarde pas la fin de l'histoire, mais c'est cette vision où quelqu'un, donc le serviteur d'Élisée, sors dehors et vois simplement la puissance, les puissances de l'homme, de ce roi des Syriens, qui est là avec tous ses chevaux et ses chars. Et Élisée, ce prophète, lui dit, mais n'aie pas peur, parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont dehors. Et il prie Dieu, et Dieu ouvre les yeux de cet assistant, de ce serviteur, qui voit ensuite la réalité spirituelle avec la montagne qui est pleine de chevaux et de chars de feu. Et il y a d'autres passages où il y a cette réalité spirituelle qui est révélée dans la Bible. Mais c'est quelque chose qu'on a du mal parfois à accepter ou à... Mais moi, ce passage, j'étais en train d'étudier, ça m'a vraiment peut-être touché et affecté aussi de voir Daniel et de voir... On a le sentiment vraiment qu'il est dans une bataille ici de prière où il s'en retrouve complètement épuisé. Et je me suis dit, c'est quand la dernière fois que j'ai vraiment été fatigué dans la prière, quoi. Pour moi, le constat était de... J'étais forcé de dire que je crois que j'ai jamais été dans un état d'épuisement à cause de la prière, quoi. Si j'étais fatigué, c'était parce que c'était l'heure ou parce que j'avais pas mangé ou à cause d'autres choses, mais jamais vraiment à cause d'une lourdeur ou d'un fardeau sur le cœur à cause de la prière. Mais c'est intéressant aussi parce qu'on voit que Dieu vient après ces moments-là pour Daniel et lui donne la force, le touche. Et c'est aussi quelque chose que, par exemple, on le voit avec Jésus quand il est dans le désert et qu'il y a ce combat avec Satan, qu'il envoie des anges l'encourager, le fortifier. Et ça aussi, c'est un aspect du monde spirituel qu'il y a des anges qui sont de notre côté, qui viennent aussi nous fortifier, que Dieu envoie pour nous encourager, pour nous garder. Et ensuite, il y a cette idée que cette bataille spirituelle qui a lieu, elle ne s'arrête pas après une victoire. Que cet ange, il a bataillé 21 jours et après il vient à Daniel et après il dit bon, et après maintenant je dois retourner, et ça continue en quelque sorte. Et là aussi j'étais je me suis dit, mais je suis pas dans cette optique là quoi, je suis pas dans cette optique là de dire je vis une bataille, ou je suis vraiment dans quelque chose qui quand vous voyez un reportage à la télé avec quand ils vous montrent les genre, ils aiment bien montrer les entraînements ou les forces pour être accepté dans le GIGN ou dans la Légion étrangère et on voit ces gars qui sont là qui ont leur fait dormir 2 heures et doivent faire 200 bornes à pied avec 40 kilos sur le dos et y a un côté où ces gars là ils sont toujours prêts quoi. Mec, ils ont plus que cet objectif-là, quoi. Et ça m'a vraiment repris. Mais c'est vraiment cette optique de dire qu'on est au milieu d'une bataille et qu'elle dure, toute notre vie et est-ce qu'on est vraiment dans cette optique de bataille, quelque chose de continuel. Et pour moi, j'étais vraiment repris de me dire que je ne suis pas dans cette optique-là et que la réalité de ce combat qui parfois me vient mais n'est pas quelque chose que je comprends au jour le jour et que je vis au jour le jour forcément tout le temps. Et je savais pas trop quoi dire, j'étais vraiment tu peux arrêter quoi, enfin.
Je trouve que ça, moi, ça me renvoie aussi à l'étude qu'on a faite par rapport à la vie des disciples et comment à chaque fois qu'ils sortaient de quelque chose, d'une difficulté, d'une épreuve, c'était pour en rencontrer une autre et que ça les arrêtait jamais, quoi. Mm-hmm. Et c'est un peu cet aspect-là de dire la vie d'un disciple et vivre avec Jésus, c'est aussi cet aspect-là, quoi.
Mm-hmm. J'ai quelques romans écrits aux États-Unis récemment, qui donnent une idée romancée, c'est pas la Bible, les livres de Franck Peretti, En anglais, c'était This Present Darkness. Et ça donne vraiment un sentiment quand on lit ces livres. On a une idée de ce que ça pourrait être et de la réalité de cette bataille incessante. C'est vrai que c'est quelque chose d'un peu. On n'a pas tellement envie de se dire. En fait, on n'est pas là pour avoir maximiser notre plaisir tout au long de notre vie, mais qu'on est au milieu d'un combat impitoyable. Et ça, c'est une réalité qu'on n'a pas envie nécessairement d'embrasser ou d'accepter ou de vivre.
Donc, l'enjeu de cette bataille, c'est effectivement le salut des hommes, mais c'est pas petit.
Voilà, et donc. Un petit peu tout pour ce soir. C'est ce chapitre 10, c'est comme si Dieu prépare Daniel avant la vision qu'il va avoir dans le chapitre 11, où il va voir les puissances terrestres et les différents rois et les batailles. Et il lui donne l'aperçu spirituel de ce qui est en jeu derrière, et le prépare à comprendre ce qui est vraiment en train de se placer. Et lui donne l'envers du décor. Et il lui donne vraiment les deux aspects, quoi. Et on va regarder la semaine prochaine le chapitre 11 et les événements plus historiques. C'est tout ce que j'avais noté pour ce soir.